إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى على شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى ونشرع اليوم في شرح باب القسمة باب القسمة فالقسمة قال الشيخ رحمه الله وحفظه هي قسمة الأموال بين الشركاء ودليلها قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم الشفعة في كل مال لم يقسم أخرجه البخاري رحمه الله تعالى دونك On commence ici un nouveau chapitre de l'explication de Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Et le chapitre donc que l'on va commencer aujourd'hui s'intitule Babu al-Qismah. Babu al-Qismah. Naam. Donc, al-qisma, que l'on peut traduire par la répartition. La répartition, ou tout simplement, le partage. Taïeb. Donc, il dit le Cheikh Sulayman, hafidhahullahu ta'ala, ici, al-qisma, hiya qismatul amwal. Donc, c'est la répartition des biens entre associés. La répartition des biens entre associés, ça, al-qisma. La preuve que cela est légiféré, nous avons plusieurs versets, parmi eux, celui de la sourate Al-Qamar, le verset numéro 28. Dans le sens du verset Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit Annonce-leur que l'eau est partagée entre eux et la chamelle. Annonce-leur que l'eau est partagée entre eux et la chamelle et qu'ils boiront de chaque boisson. Vous voyez ? Donc ici, on a la preuve que il est permis de répartir les biens entre associés. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la surat An-Nisa, le verset numéro 8. Dans le sens du verset Allah tabaraka wa ta'ala, il dit نعم وإذا حضر القسمة أولو القربى que craignent ceux qui s'ils laissaient derrière eux des enfants en bas âge s'inquiéteraient afin c'est le verset numéro 9 si des proches des orphelins et nécessiteux assistent au partage offrez-leur quelque chose
yani de cet héritage et parlez-leur avec bonté. Si des proches, des orphelins et nécessiteux assistent au partage, donc al-qisma, offrez-leur-en quelque chose et parlez-leur avec bonté. Et on a également le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ash-shuf'a fi kulli malin »« Ash-shuf'a fi kulli malin » Naam. Donc, Ash-shuf'a, c'est un chapitre que l'on a vu dans le chapitre des transactions. Et on a expliqué donc ce qu'était Ash-shuf'a. Pour ceux qui veulent revenir sur ce chapitre-là, les cours sont disponibles sur le site du Sentier du Salut. Donc pour résumer, Ash-shuf'a, هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. Donc الشفعة, c'est le fait que l'un des associés réclame sa part qui est donc dans son bien, hein, le fait que on a un bien qui appartient à plusieurs personnes qui sont associées, et ce bien-là a été vendu. Ce bien-là a été vendu. Donc bien sûr, l'un des associés a le droit de réclamer la part de la valeur de ce bien-là qui a été vendu. Donc ce droit-là, dans la législation islamique, on l'appelle al-shuf'a. Donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-shuf'a concerne tous les biens pour lesquels il n'a pas été fait de répartition, de partage. Donc cela montre bien qu'il est permis de répartir un bien entre associés. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qal, wa hiya naw'an. Al-awwal qismatu ijbarin fi ma la darara fihi wa la radda 'iwad kal-mithliyat wad-dur al-kibar wal-amlak al-wasi'ah. Wal-amlak al-wasi'ah. Idhan qal النوع الأول قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه فيما لا ضرر فيه طيب وهذا هو أن لا يكون فيها ضرر على أحد الشريكين كالدار الكبيرة التي حجراتها متساوية أما إذا كانت حجراتها غير متساوية ففيها ضرر. Donc, il dit l'auteur ici, rahimahullah, que al-qisma, la répartition des biens, peut se faire de deux façons. La première, une répartition ijbar, une répartition de contrainte, une répartition, un partage qui est coercitif de contrainte. Voyez? Et cela va concerner les biens dans lesquels il n'y a pas de préjudice pour aucun des associés. Taïeb, il faut qu'il n'y ait aucun préjudice pour ou à l'encontre d'aucun associé. Exemple, les grandes maisons, une grande maison, une grande villa, dans laquelle toutes les chambres et toutes les pièces sont égales. Elles ont toutes la même superficie et la même grandeur. Vous voyez? Dans ce cas-là, si on doit répartir la maison en plusieurs parts, il sera facile de la partager à part égale, vu que les chambres ont toutes la même taille et la même superficie. Dans ce cas-là, donc, on pourra faire appel à ce partage qui est coercitif. Ijber. Vous voyez? En revanche, si il y a des chambres qui sont plus grande que d'autres, plus spacieuse que d'autres, etc., etc. Dans ce cas-là, on ne pourra pas faire cette répartition-là, ijbar, coercitif. Allez? Naam. الشرط الثاني ولا رد عوض ولا رد عوض مثل أن تكون مثلا مزروعة في كل منهما بئر وشجر ومتساوية في المنافع والمساحة، فإذا اقتسم لم يكن فيها رد عوض. ولو كان في أحدهما بئر والشجر وليس في الأخرى شيء، ففيها رد عوض لمن أخذ ما ليس في بئر وشجر، يرد عليه مبلغ من المال. Il dit ici, l'auteur Himaullah, deuxième condition pour qu'on puisse faire appel à cette répartition coercitive, le fait qu'on n'a pas besoin de dédommager un des associés. De dédommager un des associés. Exemple. On a deux terres. D'accord? On a deux terres, deux champs. Dans chacune de ces terres, on a un puits, on a des arbres, le même nombre d'arbres, etc. Et ces champs-là ont la même superficie et les mêmes bénéfices. D'accord? Donc on a deux terres qui ont la même superficie, les mêmes bénéfices. Elles ont chacune un puits, elles ont chacune un arbre ou le même nombre d'arbres, etc., etc. Dans ce cas-là, si on doit du coup partager ces deux terres entre deux associés, il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun dédommagement à faire pour qui que ce soit, puisque les deux terres sont exactement similaires et identiques. C'est bon? Dans ce cas-là, donc, on pourra faire appel à la répartition coercitive. Ijbar. Taïb. En revanche, si on a dans l'une de ces terres un puits, des arbres, etc., etc., mais que dans l'autre, nous n'avons ni puits ni arbres, qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé lors de la répartition, eh bien, de dédommager celui qui a eu la terre dans laquelle il n'y a ni puits ni arbres. On sera obligé de le dédommager pour que yani, il n'y ait pas d'injustice entre les deux associés. D'accord? Donc on devra lui verser un montant afin de compenser le fait qu'il n'ait pas de puits et qu'il n'ait pas d'arbres, etc., etc. D'accord? Donc dans ce cas-là précis, si les deux terres ne sont pas totalement identiques, et donc ça va entraîner un dédommagement, et donc il ne sera pas possible de faire une répartition coercitive. ثم يقول كالمثليات كأكياس يعني بر أو أرز أو أواني متساوية أو سيارات وهكذا. طيب نعم وقال وهذا هي النوع الأول وسميت بذلك لإجبار المبتنع منها إذا كملت الشروط. والمثليات جمع مثلي وهو المكيل والموزون ونحوهما. فالمثليات والدور الكبيرة والأراضي الواسعة ونحوها يمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض، وهو ما يزيد في نصيب أحدهما. وهذا النوع من القسمة ليس بيعاً، بل هي فرز للنصيبين، ويجبر الحاكم الممتنع من القسمة لأنها تمكن بلا ضرر عليه فيها، وطالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه، وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره، فوجبت إجابته. Puis dit, donc parmi les biens que l'on peut répartir d'une répartition coercitive sans préjudice pour un associé et sans dédommagement obligatoire, on a ce qu'on appelle al-mithliyat. Donc al-mithliyat, parmi les exemples de biens qui rentrent dans al-mithliyat, il y a les sacs, par exemple les sacs de blé, les sacs de riz, ou toute forme de récipients qui sont identiques, similaires, les voitures, etc., etc. Donc, le mithliyat, c'est ça. C'est le pluriel de mithli, et ça englobe tout ce qui est mesurable et pesable également. Mesurable et pesable, comme on a vu, le riz, le blé, etc. Donc, ça, c'est la première catégorie. C'est celle que l'on appelle, donc, al-qisma al-ijbariya, la répartition coercitive. Pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, parce que le juge, donc, a le droit de contraindre celui qui refuse de partager. Le juge a le droit de contraindre celui qui refuse de partager lorsque les conditions sont présentes. Donc là, c'est pour ça qu'on en appelle la répartition coercitive. Naam. Voyez. Donc, al-mithliyat, on a vu c'était quoi. Il y a aussi, donc, on a vu les maisons qui sont très spacieuses, les grandes maisons, les palais, les châteaux, etc. Les terres très vastes, spacieuses, et autres que cela, avec lesquelles, donc, il est possible de les répartir sans qu'il y ait de préjudice. Et sans qu'il y ait de dédommagement obligatoire. D'accord? Taille. Donc ça, c'est ce type de répartition n'est pas une forme de vente. D'accord? C'est au contraire, c'est juste, chacun, yani, aura droit à sa part. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de transaction ici. Donc le hakim, le juge, a le droit donc de contraindre, de forcer celui qui refuse de recourir à la répartition. Car il est totalement possible de répartir ce bien-là sans qu'il y ait un quelconque préjudice. D'accord? Et celui qui réclame cette répartition-là, il la réclame parce que justement, il veut faire en sorte que chaque associé, yani, ou qu'aucun associé ne subisse de préjudice d'une façon quelconque. D'accord? Non. Donc le fait que chaque associé puisse profiter de ce qu'il possède et puisse en disposer comme il l'entend, car il y a sa propriété, quoi qu'il en soit, selon son choix et selon son libre arbitre et son désir, eh bien, le juge, encore une fois, il a le droit de les contraindre ou de contraindre celui qui refuse, eh bien, de recourir à la partage et à la répartition. Taïe. النوع الثاني وقسمة التراضٍ طيب والدور الكبار أملاك الواسعة نعم وقسمة التراضٍ وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم لا بد فيها من رضا الشركاء كلهم نعم إذن قسمة التراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة. Le deuxième type de répartition, c'est la répartition à l'amiable. La répartition à l'amiable. Ou, yani, de consentement. Donc, c'est la répartition concernant un bien pour lequel la répartition représente un préjudice. Pour un, voire plusieurs associés. D'accord? On a dit la première condition pour le partage coercitif, on a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de préjudice. Donc en cas de préjudice, eh bien, cela va rentrer dans la répartition à l'amiable. D'ailleurs. Ou alors, dans laquelle il y a un dédommagement obligatoire à faire. Et on a donné tout à l'heure l'exemple, hein, d'une maison dans laquelle les pièces ne sont pas identiques, ou alors deux terres qui ne sont pas similaires au niveau de des bénéfices, des profits, etc., etc. طيب. وفي رد يعني و أو فيه رد عوض كأرضين للشريكين إحداهما لا تحتاج إلى إصلاح والأخرى تحتاج إلى إصلاح فيعطى صاحب الأرض التي تحتاج إلى إصلاح عوض يصلح به أرضه وكذلك لو كانت دار حجرتها غير متساوية فنعطي صاحب الحجر الضيقة ما يجبر ضيق حجره Donc on a dit, ce partage-là à l'amiable peut être fait lorsque il y a un dédommagement. Exemple, on a deux terres qui appartiennent à deux associés. L'une de ces deux terres, elle a besoin d'entretien et d'une certaine réparation. Ce champ-là, il est, ou l'un des deux champs, est abîmé, il a besoin de réparation. Alors que le second, lui, hein, il est très bien entretenu, il n'a pas besoin de réparation. Donc ici, on va devoir verser un dédommagement pour celui qui va obtenir la terre, ben, qui a besoin d'islah, de réparation, etc., etc., d'entretien, etc., alors que l'autre, il n'en a pas besoin. Exemple également, on a une maison dont les chambres et les pièces ne sont pas identiques. Il y en a certaines qui sont plus spacieuses que d'autres, plus grandes que d'autres. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, on va devoir dédommager celui qui a eu les pièces qui sont plus petites. On va devoir le dédommager par rapport, hein, au fait qu'il a un certain, comment dirais-je, il a été lésé par rapport à celui qui a eu les pièces qui sont plus vastes et plus spacieuses. D'ailleurs, on va le dédommager à travers, en lui donnant, yani, un meubleur, une certaine somme. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. D'ailleurs. Donc, à ce moment-là, le juge n'a pas le droit de contraindre celui qui refuse. Car pour faire ce partage, ou pour faire cette répartition-là, il faut que ce soit à l'amiable. Ça veut dire qu'on a besoin du consentement de tous les associés, de tous les propriétaires. Vous voyez? Le juge ne peut pas forcer, s'il y a un associé qui refuse de partager, eh bien, le juge ne peut pas le contraindre, il ne peut pas le forcer, car il faut que tous les associés soient consentants et acceptent que le partage soit fait. قال الشيخ لأن هذه القسمة فيها ضرر على بعض الشركاء والضرر مرفوع لحديث لا ضرر ولا ضرار ولحديث لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه وقد تقدم تخريجهما فإذا رضي الشريك المتضرر بهذه القسمة صحت لأن الحق له فيها فإذا رضي بإسقاطه جاز وهذه القسمة جارية مجرى البيع في أحكامه ومنها الرضا فلا يجبر عليها الممتنع من القسمة. Dit le cheikh Fidallah que cette répartition-là, donc, elle comporte un certain préjudice pour certains des associés. Et donc le préjudice peut être du coup communiqué au juge, d'accord? Au tribunal qui va juger. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la dara wa la dira. Ça veut dire que dans la religion islamique, il n'y a rien qui peut causer du tort au musulman ou à l'adhira. Et le musulman lui-même n'a pas le droit de causer du tort à son frère musulman. L'adhara ou l'adhira. Et également le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il n'est pas permis à un individu de toucher au bien de son frère, hein, yani injustement, sauf si, bien sûr, il est totalement consentant. Sauf s'il est totalement consentant. Et on a vu donc les sources de ce hadith dans les cours précédents. Donc lorsque, si jamais l'associé qui est lésé, l'associé qui est lésé, si jamais il accepte que le partage soit fait malgré ça, eh bien c'est permis. À condition qu'il accepte. S'il accepte que le partage soit fait malgré le fait, eh bien, que il a un certain préjudice, eh bien, il a le droit d'accepter, et dans ce cas-là, le partage sera fait. Parce que le droit lui revient à lui d'accepter ou de refuser. D'accepter, c'est-à-dire de renoncer à son haqq, ou de refuser. Vous voyez? Donc cette répartition-là subira ou sera soumise aux mêmes règles que al-bay', c'est-à-dire la vente. Que la vente. D'accord? Donc, et parmi les conditions de la vente, on a donc al-rida, le consentement, l'acceptation. Donc celui qui refuse, comme celui qui refuse de vendre, on ne peut pas le contraindre à vendre son bien. Vous voyez? Ou celui qui refuse d'acheter, on ne peut pas le contraindre à acheter. Mais là, c'est pareil. Celui qui refuse d'avoir recours à ce partage-là alors qu'il est lésé, vous voyez? On ne peut pas le forcer à partager. Wallahu ta'ala a'lam. Non. ثم قال وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته فإذا لم يرضى الشريك المتضرر بالقسمة وطلب أحد الشركاء البيع فتجب إجابته لذلك، لأن قسمتها تضر خصوصا من كان نصيبه قليلا كبيت صغير أو دكان صغير، فلا يمكن قسمته، ويكون بيعه أفضل للشريك المتضرر. طيب puis dit l'auteur rahimahullah ta'ala, donc si l'un des associés désire ou souhaite vendre le bien, dans ce cas-là, on sera obligé de le vendre. Ils seront obligés d'accepter que l'on vende ce bien-là. Pourquoi? Il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, si celui donc qui a été lésé, l'associé qui est lésé, il refuse de partager le bien, d'accord? Et que l'un des associés demande que l'on vende ce bien-là, pour qu'ensuite il se partage ben, la somme, la valeur de ce bien-là, eh bien cela sera obligatoire. Les associés devront vendre ce bien-là. Pourquoi? Parce que le fait de répartir ce bien-là en plusieurs parts entre associés, eh bien cela va léser un des associés, voire plusieurs associés parmi eux, le fait de le partager. Surtout celui qui a une petite part par rapport à certains, comme une petite maison ou un magasin petit, etc. Donc le fait de le répartir n'est pas possible. Et dans ce cas-là, donc le fait de vendre ce bien-là sera meilleur surtout pour celui qui est lésé. D'accord? Donc ils devront vendre ce bien-là et partager à chacun exactement le nombre de parts que chacun possède. Est-ce que c'est clair? وَإِنْ أَجَّرُوهَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ فِيهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قال الشيخ مثال ذلك: لو كان الملك دكانا صغيرا وأجروه فالأجرة لهم على قدر ملكهم، فمن له الربع يكون له ربع الأجرة، et enfin, si les associés louent ce bien, ils louent ce bien, le loyer donc qu'ils gagneront sera reversé à chaque associé en fonction du pourcentage qu'il possède. En fonction du pourcentage qu'il possède. Exemple, on a un magasin. Il y en a une petite boutique. Voyez? Et les associés décident de louer cette boutique à quelqu'un. Donc cette personne-là va verser un loyer. Ce loyer-là va être partagé, logiquement, entre chaque associé par la suite. Voyez? Eh bien, chaque associé prendra la part qu'il possède. Par exemple, si l'associé possède le quart du magasin, eh bien, il prendra le quart du loyer. Celui qui possède la moitié du magasin, il prendra la moitié du loyer. Celui qui possède le sixième du magasin, il prendra le sixième du loyer, et ainsi de suite. Est-ce que c'est bon? Walhamdulillah, naktafi bihadha al-qadr, inshallah. Et on passera au chapitre suivant, qui est Bab al-Iqrar, et qui est donc le dernier chapitre de Manhaj Salikin. Et donc, on terminera ce livre-là بإذن الله عز وجل لا سمن خشان إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.